Ça fait peut-être des semaines que je suis en train de prier et de demander à Dieu, Seigneur, il y a une parole que vous pouvez trouver, même avec moi, qu'il est un peu fort, mais que quand même, il faut la transmettre. Parce que des fois, je pense qu'on est habitué à venir tous les dimanches à l'église, à écouter des bonnes paroles, parce que c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Mais des fois, il y a des paroles d'exhortation que ce n'est pas facile à transmettre. Et je vais essayer, je vais demander à le Seigneur de me donner la grâce de prêcher ce matin. J'aimerais bien commencer par la prière, parce que c'est la parole de Dieu que je voudrais prêcher ce matin. Et je ne voudrais pas juger quelqu'un ce matin, mais je voudrais seulement que si chacun d'entre nous se place devant le Seigneur avec un cœur sincère et en vérité, on pourra nous retrouver et voir que peut-être plusieurs fois on a été dans les jugements des autres. Merci Père, parce que tu as établi, Seigneur, ta parole, Seigneur, pour nous apprendre, Seigneur, des leçons, Seigneur, que des fois ne sont pas faciles à prêcher, Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, que cette parole, Seigneur, qui va être prêchée, Seigneur, qu'il trouve, Seigneur, de bons terrains, Seigneur, qu'il trouve mon corps, Seigneur, et je parle pour les miens, disposé, Seigneur, pour, Seigneur, grandir, pour la laisser rentrer, Seigneur, et Seigneur, produire des fruits dans ma vie, Seigneur, et dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je ne connais pas trop tous les écrivains ici de la France. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis d'origine colombienne. J'ai passé plusieurs années en Espagne. J'étais comme pasteur pendant 12 ans et demi aussi en Portugal. Et ça fait 4 ans que je suis là avec André, Michel et toute l'Église. Et je suis très reconnaissant devant le Seigneur parce qu'on a fait un peu un parcours. Et le Seigneur il nous a donné la possibilité d'être là et de prêcher là ce matin. Alors, quand j'étais en train de préparer ce thème, et j'ai entendu, j'ai écouté comme on dit en français, fable d'un écrivain très connu, que peut-être tout le monde le connaît. Pour moi, c'est un peu nouveau. Il s'appelle Jean de la Fontaine. Ah, tout le monde connaît. Moi, je connais ce patron. Mais parce que chez nous, il y a pas mal de écrivains qui racontent des fables. Alors, moi, je vais lire une fable que je ne connaissais pas et que ça m'a marqué beaucoup quand j'ai eu l'opportunité de la lire cette semaine. Alors, je vais commencer par une histoire. Et on dit l'histoire qu'il y avait un dieu, que c'était un ancien dieu de Romain, qui s'appelle Jupiter. Alors, il convoqua un jour tous les animaux de la terre devant son trône. Je voulais leur offrir qu'ils puissent dire sans crainte si quelqu'un avait des plaintes au sujet de leur apparence ou de leur chance. Quand ils se présenteront, il leur demanda un par un s'ils pensaient avoir des défauts. Si c'est le cas, il a promis de les améliorer jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Viens ici, singe, et parle d'abord, dit le Dieu. Regardez tous ces animaux et comparez leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous complètement heureux? Ou pensez-vous peut-être que vous avez un défaut? Je pourrais vous aider. Parlez-vous à moi, monsieur, saute les singes. Est-ce que j'ai des défauts? Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air splendide. J'ai 4 pattes, comme tout le monde. Je trouve mon portrait magnifique. Au lieu de cela, l'ours l'a-t-il remarqué? Il n'y a pas de taille. Laissez l'ours parler, demanda Jupiter. Tout le monde pensait alors que l'ours se plaindrait, mais non. Il louait grandement sa silhouette. Mais voici, dit l'ours, avec ce corps parfait que la nature m'a donné, heureusement de ne pas être une taupe comme l'éléphant. C'est une masse grande, sans beauté. Il devrait se couper les oreilles et allonger sa queue. Que l'éléphant apparaisse, dit Jupiter. Il s'avance avec un discours très discret, a dit des choses très similaires. Franchement, monsieur, déclara-t-il, je n'ai rien à redire. Bien que tout le monde ne puisse pas en dire autant, voilà l'autruche avec ses petites oreilles ridicules. Laissez passer l'autruche, continua le dieu, déjà un peu fatigué. Pour moi, ne vous embêtez pas, dit l'oiseau. Je suis tellement proportionné, si vite, je peux courir à la vitesse de la lumière. Par contre, regarde la girafe, avec ses coups. Jupiter introduisit la girafe, qui à son tour dit que les dieux avaient été généreux avec elle. Grâce à ma taille, je vois le passage de la terre et du ciel, pas comme la tortue qui ne voit que les décombres. La tortue, d'autre part, a dit qu'elle avait un physique exceptionnel. Ma coquille est un abri idéal. Quand je pense au crapaud, qui doit vivre à l'air libre? Laisse passer le crapaud, dit Jupiter, quelque peu fatigué. Alors, il continue, le crapaud accusant la dame Valaine d'être trop grosse. Elle trouvait la formée très petite, qui à son tour a été jugée comme un colosse par rapport au seigneur des vers. Arrête, s'exclama Jupiter. Il ne reste plus qu'un animal aveugle comme la taupe à critiquer les yeux de l'aigle. Justement, commence la taupe, je voulais dire deux mots. L'aigle a une bonne vue, mais son queue nue n'est-il pas horrible? C'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases, dit Jupiter, mettant fin à la réunion. Tout le monde pensait qu'ils sont parfaits. Ils pensent que ceux qui doivent changer sont les autres. Puis, il les envoyait après, les avoir entendus se critiquer les uns les autres, il les trouvait si satisfaits de lui-même. Alors, nous tous, écoute ça, nous sommes comme des aigles pour les autres et comme des taupes pour nous-mêmes. Nous ne pardonnons rien aux autres, à nous toutes, parce que nous voyons nos propres erreurs. Et des fois, c'est ça la vie chrétienne. Alors, jamais j'avais entendu cette fable, cette histoire, que j'ai adorée, parce que c'est vrai, ça parle un peu de notre nature, de la vérité qu'on voit jour à jour. Alors, je voulais bien rentrer à la parole de Dieu parce que cette prédication, la parole dit que la miséricorde triomphe sur les jugements. Et c'est ça que le Seigneur a fait avec nous. Alors, cette histoire, quand je l'ai retrouvée en espagnol, il s'appelle un peu comme les sacs à dos. Et quand on a un sac à dos, on peut mettre tous nos défauts, tous nos péchés dans un sac. Mais jamais on va les voir. Parce que c'est plus facile de voir toutes les choses qu'on voit face à face. C'est plus facile pour toi et pour moi, peut-être regarder ta femme, regarder ton époux, regarder tes enfants, et voir qu'ils sont pleins de défauts. Mais je voudrais que vous m'accompagniez ce matin, parce que j'aimerais bien lire quelques passages de la Bible. Maintenant, on va rentrer à la parole de Dieu. Et je vais donner un grand exemple dans l'Ancien Testament. Et je voudrais voir aussi la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ avec une dame, parce que lui, il a été rempli de compassion, de pitié et de miséricorde. On va chercher dans la parole de Dieu, Jacques 2, verset 13.
Cette parole, elle est forte.
C'est pour ça que j'ai commencé pour dire que c'est forte. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et c'est vrai que c'est triste des fois à dire ça que je veux dire. Mais un jour, j'écoutais un écrivain chrétien dire quelque chose. Et pour moi, ça prend du sens aussi quand on voit les églises chrétiennes. Et quelqu'un a dit un jour que l'armée est plus cruelle du monde entier peut être l'armée chrétienne. Et pourquoi? Parce que quand on retrouve un soldat qui est blessé, qui est en souffrance, peut-être pour les péchés, peut-être parce qu'il a suivi des difficultés ou il est dans une situation de fragilité, des fois, c'est nous-mêmes, les frères et les sœurs chrétiens, qui signalent avec les doigts, qui continuent à mettre des choses dedans et qu'à la fin, on ne l'aide pas. Au contraire, on fait une exécution directe sur les chrétiens, sur les soldats qui est un peu abattu. Et c'est triste, mais il faut le dire aussi. Parce que nous, on est tous dans le même bateau. Moi, je dis toujours la même chose. On est tous dans le même bateau. On va le voir tout à l'heure. On est tous pécheurs. On est tous dans la même condition et dans la même situation. Alors, je n'ai pas les droits moralement. Je n'ai pas les droits devant le Seigneur de signaler, d'accuser les autres et d'exposer les péchés de ma soeur ou les péchés de mon frère. Matthieu 22, verset 40. Matthieu 22, verset 40. Je vais commencer à lire à partir du verset 36. D'accord. Alors, il y avait un religieux qui est venu pour voir à Jésus. Et à partir du verset 36, il commence à dire, « Maître, quel est dans la loi les commandements les plus grands ?» Tout le monde connaît cette histoire. Alors, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Il faut faire attention à ça. Parce que tout le monde dit, ah non, j'aime à Dieu, j'aime le Seigneur. Mais après, je ne supporte pas mon voisin, mon frère, ma soeur, et quelqu'un de mon lycée. Je parle pour les lycéens qui sont derrière. Et un professeur peut-être, des fois c'est un professeur, ah, je ne le supporte pas, ah, j'écoutais ça chez moi. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi oui. Et là, mes filles, ah papa, c'est trop difficile, ah papa, c'est trop compliqué, il faut que j'aie la patience. Je dis, écoute ma fille, il faut pardonner. Alors, et Jésus, il nous a pris qu'il a mis dans le même niveau, parce que c'est ça qui dit la parole. Le premier grand commandement, c'est aimer à Dieu. Mais après, Jésus, il a dit, écoute Israël, le deuxième, il est semblable. Ça veut dire identique. Ils sont les mêmes. On ne va pas dire que c'est que le premier ou que c'est que le deuxième. Mais Jésus, il a mis tous les deux dans le même niveau. Et c'est pour ça qu'il a dit, il faut aimer ton prochain. On va passer à l'Ancien Testament. Il y a une histoire que je pense que tout le monde connaît, parce que c'est une histoire très, très, très connue. C'était Je pense que c'était même appris pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais c'est la vie du prophète Jonas. Ça se dit Jonas en français, non? C'est ça? Bon, c'est pareil pour nous. Pour nous, c'est Jonas. Alors, c'est le prophète Jonas. Et je pense que tout le monde connaît cette histoire. Et moi, je voudrais montrer comment Dieu il a fait de la grâce et de la miséricorde devant une ville qui a été, effondrée par la méchanceté et pour les péchés. Alors, on va commencer à lire Jonas 1, verset 1 jusqu'à 3. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Non, c'est pas ça, ça c'est le 3 qui est affiché. Bon, je vais aller lire de mon téléphone, ok? L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Alors, je voudrais signaler une première chose dans ce passage que je viens de lire. Et pour les personnes qui prennent des notes, la première chose, c'est que, écoute bien ça que je vais te dire ce matin, et toi et moi, on est des instruments pour exercer la grâce et la miséricorde. Le Seigneur nous a choisis. Si tu es chrétien, si tu as fait une prière un jour de repentance, si tu marches avec Dieu, tu as été appelé comme moi. Pas seulement les personnes qui sont en autorité. Chaque chrétien a été appelé à donner la miséricorde aux autres. Alors, on voit que Jonas, c'était un instrument de Dieu pour faire la miséricorde. Quand on regarde et on lise le Jonas 1, verset 1 jusqu'à 3, le Seigneur, il va chercher à Jonas, il va lui dire, écoute, j'ai une mission pour toi. Le Seigneur, il cherche des personnes qui sont toujours à son écoute pour lui donner des missions à faire. Et des fois, on dit, Seigneur, moi, j'ai la mission pour moi, c'est aller peut-être, je ne sais pas, en Afrique ou aller en Amérique du Sud et proclamer ta parole et voir des miracles et voir des personnes qui vont se guérir. Mais des fois, on peut rater les plus importants, que c'est les personnes qui sont à côté de nous, que c'est les personnes de la famille. L'apôtre Pierre, il disait que les jugements commencent pour la maison. Ils commencent pour la maison. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde, qu'on se rapproche, parce que des fois, on a la vue comme l'aigle qu'il va regarder au fond, mais il faut qu'on regarde à côté, parce que des fois, on fait la miséricorde avec les personnes qu'on ne connaît pas, mais c'est très difficile d'avoir la miséricorde, la compassion et l'amour pour les personnes qui sont à notre côté. Et ça, il faut le dire. Je sais que ce n'est pas facile écouter ça et entendre ça. Je sais que c'est une parole dure, mais il faut dire, parce que le jugement va commencer pour la maison. Et c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire devant le Seigneur? C'est pour ça qu'il faut s'interpeller devant Dieu. Seigneur, est-ce que par rapport à la compassion, je suis dans quel niveau, Seigneur? Jonas, il avait dans sa tête une idée différente de la compassion. Parce que, tu sais, une fois qu'il a écouté la parole, la mission que Dieu lui a donnée, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision d'aller dans un sens contraire que le Seigneur il avait demandé à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme Jésus-Christ. On n'est pas encore rempli de la grâce et de l'amour de Dieu. Et lui, il a préféré rester dans les jugements pour une nation entière. Tu sais, j'ai fait des recherches par rapport à Ninive. Et Ninive, à l'époque, c'était la capitale du royaume syrien. C'était une ville de 120 000 habitants. Imaginez une ville comme ça à l'époque. Maintenant, on peut dire, non, c'est un petit village, parce que maintenant, combien de personnes à Paris? 11 millions, peut-être. Ouais, je pense qu'il y a plus de personnes à Paris qu'en Lisbonne. Hein. Quand j'étais à Lisbonne à l'époque, il y avait 11 millions de Portugais là-bas. Et je pense que c'est plus grand la ville de Paris. Alors imaginez maintenant. Mais à l'époque, c'était une grande ville. Mais le Seigneur, il a dit, ah, je vais donner une parole dure pour Ninive. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il attendait? Que ce peuple rentrait dans la repentance. Alors, pour revenir à Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son propre jugement. Il a dit, ah, c'est impossible que tu vas pardonner une ville comme ça. Tu sais, la ville de Ninive, et tu peux la trouver par Internet, elle était connue comme une ville sanguinaire. Moi, j'ai fait la recherche de tous les péchés qu'il y avait dans la ville de Ninive. C'était une liste inimaginable. Il y avait des choses horribles que tu peux dire, oh là là, jamais j'avais entendu d'une méchanceté. Comment on dit méchanceté? Merci. D'une méchanceté comme ça. C'était ça, la ville de Ninive, à l'époque. Et c'est pour ça qu'il y avait un jugement de la part de Dieu. Et il a dit à son serviteur, Jonas, alors tu vas faire la mission. Alors, première, on est instrument de Dieu pour faire la miséricorde. Deuxième, écoute ça. Les jugements viennent à cause du péché. On va continuer à lire Jonas 1, dans les versets 4. Non, c'est pas Jonas 1, c'est Jonas 3, versets 1 à 4. On va sauter un peu jusqu'à le chapitre 3. Et tout le monde connaît l'histoire. Je ne vais pas tout raconter parce que sinon on va passer des heures ici. Mais bon, il a pris une autre direction. Après la parole, il parle d'un grand poisson qui est venu, qui a englouti à Jonas. Il s'est repenti dans les ventres de ce grand poisson. Et après, le Seigneur, il a fait grâce et miséricorde à Jonas. Et il a été amené à une côte. Alors, l'Éternel adressa, on va passer à Jonas 3, mais c'est une belle histoire pour regarder, pour étudier et pour voir tout l'amour et la miséricorde que Dieu il a envers tout le monde entier. Alors, l'Éternel adressa la parole une seconde fois, parce que Dieu, il est un Dieu d'opportunité, de miséricorde. Jamais il va te dire, écoute, tu t'es trompé, tu n'auras pas une nouvelle opportunité. Et moi, aujourd'hui, si je suis là devant vous et je prêche, c'est parce que le Seigneur, il m'a donné une deuxième opportunité. Parce que moi, j'ai fait plein de bêtises. Moi, je m'ai trompé, moi, j'ai fait des erreurs. Et voilà, je ne mérite rien. On ne mérite rien. Mais la grâce de Dieu et sa compassion, il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça qu'on peut être devant ce matin, parce que la grâce du Seigneur m'a trouvé. Amen. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route. Va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas les messages que je te communique. Alors, je pense que Jonas, il avait appris la leçon déjà. Moi, j'imagine, hein, parce que passer 3 jours à l'intérieur d'un grand poisson, C'était un peu compliqué. Mais Jonas se mit en route, il se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Imaginez, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Alors, il y avait déjà un jugement de la part de Dieu. Dieu avait déjà pris une décision. Il a dit, c'est hors de question, normalement je vais à détruire la ville de Ninive parce qu'il y a plein de péchés. Et c'était ça déjà le jugement de la part de Dieu. C'est pour ça que les jugements viennent à cause du péché. Nous, on a été, il y aura un jour qu'on va nous présenter devant Dieu. Et il y aura un jugement à la fin. Et on va nous juger pourquoi ? Pour la loi. Parce que Dieu, il a établi la loi. Alors, on ne peut pas être jugé si la loi, il n'existait pas. Mais si la loi, il existe, il y aura un jour qu'on va nous présenter devant les juges, que c'est Jésus-Christ. Et après, il va nous dire, écoute, il y a 2 possibilités. Tu es libre ou tu es condamné. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans notre corps. On a pris la décision de marcher avec lui. On a pris la décision, peut-être s'il y a quelqu'un ici qui jamais a pris cette décision, moi je peux te dire que c'est la décision plus importante de notre vie. Parce qu'on n'est pas capable de trouver le salut pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut passer par Jésus-Christ. Moi, j'ai lu une phrase que j'aimais trop cette semaine et que ma femme elle m'avait envoyée. Et moi, cette semaine, j'étais à fond avec tous les écrivains en français. Et cette fois, c'était Blaise Pascal, qui était un grand mathématicien. Ah, c'est compliqué. Oh, c'est difficile pour moi. Mathématicien. Et c'était un homme de Dieu, c'est un théologue aussi. Mais après, il a dit, écoute, la vie, si on a à Dieu et on ne connaît pas sa propre misère, on peut devenir orgueilleux, dans l'orgueil, tu vois. Mais si on connaît sa propre misère, sa situation du péché, mais on ne connaît pas à Dieu, on peut rentrer dans le désespoir. Merci à Jésus-Christ qu'il est venu, qu'il s'est positionné au milieu. Et maintenant, c'est l'équilibre entre Dieu et notre propre misère. Parce que Jésus-Christ est le pont qui nous conduit, qui nous ramène à Dieu. Et quand Dieu il nous regarde, il voit toute l'humanité. Il me voit, il me connaît, il connaît mes défauts, il connaît toutes les choses. Tu peux demander à ma femme et à mes filles, comme je suis un peu difficile aussi, hein, compliqué. Alors, tout le monde a des défauts, mais quand le Seigneur il va te voir, il ne va pas voir ta condition de pécheur. Il va voir à Jésus qu'il s'était positionné au milieu, qu'il a déjà chargé et qu'il a remporté dans la croix tous tes péchés. Il va nous voir par sa grâce et sa miséricorde. Et pur, il va nous voir que nous sommes libres de tout péché. Et c'est ça, comme on dit, c'est ça le message, c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'une histoire difficile à croire ou à comprendre. C'est juste voir qu'on est dans un monde qui est dans la corruption. Et quand je parle de la corruption, je dis à tous les niveaux qu'il y a la corruption. Ce n'était pas seulement des villes comme Ninive et plusieurs villes qu'on voit qui ont été détruites par Dieu, mais on vit dans une génération qu'on a été appelée à être à part, à être sanctifiée, à lutter contre les péchés. Amen. Troisième, l'hébreu, écoute ça, l'hébreu repentir peut tout changer. Alors, il y avait déjà un jugement sur la ville de Ninive et on va voir comme dans le même chapitre, Jonas 3, à partir du verset 5. Qu'est-ce qui a fait la ville de Ninive? Verset 5. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un, comment on dit, jeûne. Pour moi, c'est très compliqué de dire ça pour moi en français. Parce que ça, c'est pareil que... Ah, désolé, pardon. Bon, et alors, ils publièrent un jeûne et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtiront des habits, des toiles, des sacs. Le roi de Ninive, informé de la chose, s'éleva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Ça, c'était un signe de repentance à l'époque. D'accord? C'était un peu bizarre pour nous, maintenant à l'époque, mais ça veut dire qu'il a dit dans son corps, écoute, on a péché. Je suis un pécheur, et la ville de Ninive, nous sommes des pécheurs tous. Alors, verset 7, puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petites ou grosses bétails, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu de toute leur force que chacun, écoute ça, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravissera-t-il et décidera-t-il de changer des lignes de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Ils sont appelés à quoi? À la grâce et à la miséricorde de Dieu. Mais c'est ça qu'on peut faire dans notre vie. Si on reste sur les jugements, on va voir toujours le péché de l'autre, comme on a lu dans la petite histoire que j'ai lue tout à l'heure. On va rester toujours pour voir le péché que l'autre il a fait. Mais je veux vraiment oublier que je suis dans la même condition. Alors, la clé dans cette histoire de Jonas, c'est que quand ils sont écoutés la parole de Dieu, qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été déclaré, ils ont dit peut-être qu'il y a un petit espoir et ça va être de commencer chacun d'entre nous. Et même c'est le roi qui l'a commencé et qui l'a fait un décret. On va nous repentir devant le Seigneur. Et c'est ça qui peut vraiment faire changer toutes les choses. Verset 10. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissant et abandonnant leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux les malheurs dont il les avait menacés. Ils s'en abstint. Il a fait marche arrière. Et quatrième, la nature, c'est ça qu'il faut retenir dans notre pensée ce matin. S'il y a quelque chose qui c'est important de retenir ce matin, c'est que la nature de Dieu est la compassion. On va passer à la fin de cette histoire et Jonas 5. Non, pas 5, ça n'existait pas. Jonas 4, verset 1. Jonas les prit très mal et s'est mis en colère parce qu'il ne voudrait pas que Dieu pardonne la nation de Ninive. Qu'est-ce qu'il voudrait? Il avait encore des jugements. voudrait faire sa propre volonté que faire la volonté de Dieu. Jonas le prit très mal, il s'est mis en colère, il adressa cette prière à l'Éternel. Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir les malheurs que tu as annoncés. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. Il a fait commencer Jonas à faire comme un enfant devant Dieu. Il a été, je ne sais pas comment se dit ça en français, je ne sais pas, il a fait une scène, une quai. Il a boudé. Il a boudé devant le Seigneur. Il a été fâché contre lui. Alors, imaginez, j'ai pensé beaucoup à Jonas dans cette histoire. Imaginez que tu as l'opportunité de sauver une grande ville de 120 000 habitants. Que le Seigneur il t'a choisi pour une mission comme ça. Et après, à la fin, tu vas rentrer, parce que tu peux continuer à lire, hein, je ne vais pas lire tout, mais jusqu'à la fin, il va être en dépression. Il va rentrer dans une situation de se bagarrer avec Dieu pour dire, Seigneur, je savais que tu es plein de bonté et plein de miséricorde. Alors c'est ça la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a voulu garder sa création. Et la semaine dernière, je me rappelle qu'André, il a bien nous expliqué ici tous les plans que le Seigneur il a fait pour venir, pour nous sauver, et toute la bataille qu'on a entre le bien et le mal, entre Satan et nous. Alors, le Seigneur, il nous a donné l'autorité, il nous a donné aussi des instruments pour être plein de bonté et de miséricorde avec les autres. Donc cette histoire, c'est un peu triste, et tu peux la lire jusqu'à la fin. Le Seigneur, il fait sortir et grandir dans sa journée un grand feuille qui protégeait à Jonas du soleil. Et après, à la fin, il a laissé mourir pour montrer vraiment à Jonas que lui, il a un cœur rempli de miséricorde. Et que Jonas, il était un homme que peut-être il s'est trompé dans les jugements qu'il faisait devant la ville de Ninive. Je vais m'arrêter ça pour l'histoire de Jonas. Mais on finira, et moi, je vais passer au Nouveau Testament. Et je vais prendre encore 5 minutes. Parce que je voudrais vous montrer dans l'histoire, et on va passer à Jean 8, verset 1 jusqu'à 9. Jean 8, verset 1 jusqu'à 9. Compte à Jésus, il partit pour les monts des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur les faits. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ces cas ?» Là, je vais m'arrêter là, parce que moi, j'ai trouvé quelque chose de fort dans ce passage de la parole. On voit qu'il y avait tous les prêtres, tous les hommes de, comment on dit, les hommes religieux de l'époque, qu'ils sont venus parce qu'ils cherchaient à piéger à Jésus, mais qu'ils ont pris une opportunité pour piéger à Jésus. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu une dame qu'il était rattrapé dans les moments de péché. Alors c'est bizarre parce que la parole dit, et tu peux le lire dans Deutéronome 22, verset 22-24, que s'il y avait quelqu'un qui était rattrapé en adultère, c'était la mort, c'était le jugement direct. Alors il parlait d'un homme et d'une femme. Alors c'est bizarre parce qu'il y avait que la dame aussi. Il y avait seulement une dame. La parole ne dit pas qu'ils sont ramenés là. Pourquoi ? Parce que cette religieuse, il voudrait piéger à Jésus. Il voudrait faire son propre jugement. Mais il ne cherchait pas la loi vraiment. Parce que si la loi dit c'est une femme, alors où est l'homme dans toute cette histoire ? Alors ça peut nous arriver des fois. Et c'est pour ça que moi je pose la question ce matin. Quelle mesure, quelle règle, tu sais, il y a une règle pour mesurer. Quelle règle on prend pour mesurer les autres et pour me mesurer moi-même. La parole dit, je ne vais pas rentrer parce que je n'ai pas le temps, mais Matthieu 7, 24, il nous apprend qu'il y a une règle d'or que tout le monde connaît. Et qu'est-ce qu'il dit, la règle d'or ? Non, il dit qu'il faut faire avec ton prochain, avec ton, les choses que tu voudrais que cette personne il fasse avec toi. Alors ça fait la différence complètement. Quand tu regardes ce passage et tu vois qu'il y avait tous les religieux qui sont ramenés, une dame qui avait été péchée, ils ont commencé à quoi ? À juger et à condamner cette femme. Alors, quelles règles je prends pour mesurer ? Et quand je dis ça, je dis parce que Jésus, même Jésus, il a été au milieu d'une situation très compliquée et très difficile pour lui pour résoudre. Il était confronté d'un côté contre la loi qui a été stricte, qui avait été marquée déjà dans l'Ancien Testament, mais il a été confronté avec une situation d'une dame qui était presque à être, comment on dit en français, lapidée. Lapidée. Merci, c'est pareil. Lapidée. Alors, lui, il était au milieu. J'aimerais bien que tu réfléchisses une chose. Tous les jours, dans tous les endroits que tu vas être confronté à prendre deux bâtons, deux règles différentes. Un, il s'appelle la grâce, la miséricorde, la bonté et la compassion. Et l'autre va être le jugement pour devenir juge toi-même. Je voudrais que tu réfléchisses ça dans cette semaine. Dans tous les échanges que tu auras avec tes amis, avec les copains du collège, avec ta famille, avec tout le monde. Parce que c'est facile de devenir juge. C'est très facile. On est dans une époque qui, avec la technologie, avec tous les avances du téléphone, il y a Twitter, il y a plein de réseaux sociaux. Tout le monde veut s'exprimer. C'est marrant, mais quand tu vois quelques situations, directement, tu vas voir déjà que tout le monde, presque tout le monde a vu et que tout le monde commence à faire des commentaires. Ah, ça, c'est facile. Juger, c'est très facile. Voir les péchés chez l'autre, c'est très facile. Et Jésus, il nous a pris en Matthieu. Il a dit, écoute, fais attention de juger l'autre. Fais attention parce que des fois, tu as une petite paille. Tu vas voir que l'autre, il a une petite paille, mais tu as un gros poutre. Ou le plus grand que les poutres qu'ils sont là. Dans ton œil. Et c'est ça qui fait que nous, des fois, on devient juge devant les autres. Mais tu sais, ça c'est de l'orgueil de nous croire qu'on est plus grand que Dieu et plus grand que Jésus. Parce que c'est seulement Jésus qui pourra juger la condition d'une autre personne. Et même dans ce passage, il a pris la décision de ne pas juger cette femme. Alors, Nous avons tous la même nature et qu'on est des pécheurs. La parole nous dit en Romains 6, 23, il a dit, parce que le salaire du péché est quoi ? Est la mort. Et c'est pour ça que
à cette dame qui avait été prise en péché, qu'est-ce qu'elle attendait? C'était seulement la mort. On va continuer à lire à partir du verset 6. En lui posant ces questions, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus, il savait ça, il s'est mis à écrire du doigt sur le sol, tout le monde connaît l'histoire, où ils insistant, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Des fois, on est chargé avec un sac rempli de pierres, de petites et de grandes pierres. Moi, je réfléchis cette semaine et je dis, ah Seigneur, des fois, il faut que je jette par terre tous les petits et les grandes pierres que normalement, je suis habitué à changer dans mon sac. Et c'est un bon exemple parce que c'est littéraire de l'histoire qu'on vient de lire. On a toujours prête à prendre quelques petites pierres pour dire, bon, il s'est trompé, il a fait ça, l'autre, il a fait ça. Parce que c'est marrant, c'est facile. Et des fois, on rigole par rapport à ça. Après avoir entendu ces paroles, ils esquiveront l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne n'est t'a condamné. » Verset 11, « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » On va finir par la prière et je voudrais prier pour faire un engagement devant le Seigneur, un engagement personnel. Moi, j'ai fait les miens. Et tu peux faire les tiens, si tu veux, devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, j'ai deux bâtons, j'ai deux règles, je préfère prendre devant mes frères et mes sœurs toujours la bonté, la grâce et la miséricorde que prend l'autre. Parce que c'est ça que nous a appris Jésus. Tu sais, cette dame, elle a été retrouvée au milieu du péché. Et des fois, il y a des péchés qu'on voit et que tout le monde connaît. Ça, c'est les péchés, on va dire, qui sont un peu visibles. On a des péchés visibles. C'est les choses que peut-être ta femme, ton époux, tes enfants, ils vont te réclamer tout le temps. « Ah, papa, tu es dans la colère. Papa, tu as menti. Papa, tu as fait ça. » Et des fois, c'est des péchés qu'on connaît, qu'on sait, qu'on sait battre avec eux. Mais des fois, il y a des péchés qu'ils ne sont pas connus. Toutes les personnes qui sont confrontées avec Jésus et qui sont commencées à jeter la pierre par terre, c'était des personnes qui pensaient que le pécheur, c'était la dame. Mais il y avait de l'orgueil dans cette personne. Il y avait peut-être que quand cette personne, ils ont été confrontés par Jésus, ils ont commencé à se rappeler que la nature, c'est le péché et qu'ils sont des pécheurs aussi. Alors, je ne voudrais pas trop te basculer ce matin, mais si c'est le Saint-Esprit qui le fait, tant mieux. Hein, parce que moi, je ne suis pas là pour juger personne. Mais que le Saint-Esprit, il nous aide, il t'aide à avoir de la compassion, de la grâce et de la miséricorde pour toutes les personnes qui sont à notre côté. Je finirai et je vais demander à Isabella s'il peut venir m'aider avec le piano, s'il te plaît. Parce que je voudrais finir pour un verset que j'aime bien et que je pense que c'est important de faire. Parce que quoi faire devant une situation de jugement? Et Galatiens 6, 27. Galatiens, c'est les personnes de Galates. Galates 6, 6. Je ne te trompe pas. Peut-être que je m'ai trompé. Je l'écris. Peut-être c'est le 17. Attends. Là, la tiens. Ah, jamais trouvé, je ne les trouve pas. Jamais trompé. Bon, on va lire Proverbe 16, 6. Parce que je ne trouve pas l'autre. Proverbe 16, 6. La parole dit, la faute est expiée par la bonté et la fidélité. Et par crainte de l'Éternel, on se retourne du mal. La faute est expiée par la bonté, la fidélité et la miséricorde de Dieu. Alors dans les versets que je ne trouve pas, dans Galates 6, je ne sais pas, il est à droite ou à gauche, il dit que si on trouve une personne qui a tombé dans un péché, il faut la restaurer. Je ne sais pas si quelqu'un peut le trouver, avec un esprit d'humilité. 6, 1, 2. Oui, 6 Andou, alors on va essayer de le retrouver parce que vraiment je voudrais le partager, c'est important et c'est ça qu'il faut faire. Et merci Rouven, Galate 6 Andou, alors oui, c'est ça. Frères et sœurs, si quelqu'un se laisse surprendre par quelque faute, si tu trouves un frère et une sœur dans un péché, vous que vivez selon l'esprit, ramène-les dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi, qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Et c'est ça. Il faut aider les gens qui sont blessés. Il faut aider les personnes qui sont à nos côtés. Parce que c'est à ça que le Seigneur, il nous a appelés. À profiter cet instant, pendant qu'on écoute la musique, Saint-Esprit, viens nous aider. Seigneur, tu es plein en bonté, Seigneur, et grand, Seigneur, tu miséricorde, Seigneur, et grand, Seigneur, et tu peux, Seigneur, venir pour nous aider, Seigneur.
Nous avons besoin d'être aimés. Jésus a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort.
Seigneur, je voudrais faire, Seigneur, un engagement personnel devant toi, Seigneur. Et ta parole dit, Seigneur, que encore, Seigneur, on n'a pas résisté les péchés, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, comme tu l'as fait. Parce que tu l'as fait jusqu'à la fin. Tu as donné ta vie, Seigneur. Ta sang, Seigneur, a coulé dans la croix, Seigneur, pour amour à moi, Seigneur. Et c'est ça, Seigneur, la preuve d'amour, Seigneur, plus grand. La preuve d'amour, Seigneur, de miséricorde et de grâce, Seigneur, plus grand, Seigneur, qu'on pourrait trouver, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, ce matin, dis-lui, Seigneur, je voudrais, Seigneur, faire grâce, Seigneur, aux autres, Seigneur. Je voudrais voir, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui sont à mes côtés, Seigneur, comme tu les vois, Seigneur, avec tant de compassion, Seigneur, avec la pitié, Seigneur. On est dans un monde, Seigneur, de critiques, en souffrance, en dégradation. Mais Seigneur, je voudrais être, dis-lui, Seigneur, un instrument, Seigneur, de gloire, Seigneur. Un instrument, Seigneur, utile, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, pour aimer les autres, Seigneur, pour pardonner, Seigneur, et pour avoir de la patience, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu, Seigneur, quand je vois mon prochain, Seigneur, qui est en difficulté, Seigneur, à l'aider, Seigneur, à les restaurer avec un esprit, Seigneur, d'humilité, Seigneur, de sagesse, Seigneur, d'amour et de compassion, Seigneur. Merci parce que tu m'as pardonné, Seigneur. Et moi, je suis un pécheur, Seigneur. Je connais, Seigneur, ma condition. Et je sais que c'est grâce à toi, Seigneur, qu'un jour, Seigneur, le ciel et la terre, Seigneur, passeront, Seigneur, mais que ta parole, Seigneur, continuera, Seigneur, et que un jour, Seigneur, je serai dans ta présence, Seigneur, parce que tu as gagné pour moi la vie éternelle, Seigneur. Je ne pouvais pas, Seigneur, payer le prix, mais tu l'as payé pour moi, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Merci.